Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis, Ludivine Bantini, de vous accueillir à Mola pour discuter de votre dernier livre, La Bourse ou la vie. Donc, même si on va faire comme si on avait besoin de vous présenter quand même, même si je ne pense pas trop. Donc, vous avez d'abord travaillé sur la jeunesse et le pouvoir, face au pouvoir, dans les années 50, début 60 en France. Puis après, on connaît aussi vos travaux beaucoup sur mai 68, avec une histoire par le bas de mai 68. Puis vous avez travaillé sur les luttes sociales plus largement, puis notamment sur la radicalité dans les luttes des femmes. Vous avez été maîtresse de conférences à l'université de Rouen pendant une quinzaine d'années. Puis vous avez démissionné du supérieur il y a 5 ans pour enseigner donc au collège dans le 12e arrondissement à Paris. Et un choix qui force d'autant plus l'admiration que vous n'avez pas arrêté du tout de faire de la recherche et de publier des livres. Donc vous avez publié beaucoup d'ouvrages, juste citer quelques-uns, donc Au seuil ou à la découverte principalement, La commune au présent, L'ensauvagement du capital. Vous avez co-dirigé, notamment avec Quentin de Luermoz, Une histoire globale des révolutions. Vous avez écrit « Nous ne sommes rien, soyons toutes », pour lequel vous êtes aussi venu présenter il n'y a pas si longtemps que ça à Mola. Et donc, on vous accueille aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, « La bourse ou la vie, le Front populaire, histoire pour aujourd'hui », paru début mars 2026 chez La Découverte. Alors peut-être, comme première question, vous voyez, dans tous vos travaux, là, le Front populaire, pourquoi ce livre? Pourquoi étudier ce moment particulier de l'histoire?
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette discussion, parce que je sais que ça demande du temps et de l'énergie, donc je suis très reconnaissante. Pourquoi le Front populaire? Bon, déjà, ça s'inscrit en effet dans une continuité du travail historiographique pour comprendre l'histoire des soulèvements sociaux, des mouvements, des grèves, de la radicalité de certains de ces mouvements. Et puis, c'est un peu une période fétiche, hein, c'est presque une légende, presque un mythe dans l'histoire de la gauche, et en grande partie à juste titre, parce que c'est un moment qui apparaît extrêmement lumineux, foisonnant, intense, dense, en particulier par cette grève générale avec des occupations d'usines, des occupations de commerces, de magasins, de lieux de travail. Ça, c'est très fascinant. Et puis, cette union de la gauche, cette unité, ce front antifasciste qui a été fondamental et en effet qui apparaît désormais peut-être plus que jamais comme une source d'inspiration. Donc, moi, je voulais vraiment me plonger dans un grand nombre de sources très diverses, à la fois pour incarner le plus possible les protagonistes, femmes et hommes du Front populaire et de cette époque plus généralement, hein, c'est-à-dire non pas seulement les dirigeants, mais vraiment les acteurs et actrices qui ont pris part à ce mouvement qui était conçu comme un mouvement d'émancipation, un mouvement pour la justice, pour l'égalité, hein, dans une grande aspiration à plus de bien-être, à une vie meilleure, à une vie bonne, juste, digne. Et puis, je voulais aussi comprendre, malgré tout, les obstacles qui se sont dressés sur la route de ces gouvernements de Front populaire, bien comprendre la culture politique et économique à l'œuvre et quelles sont finalement exactement les mises en œuvre qui ont été réalisées, les limites aussi. Voilà. Donc ça permet de s'interroger, me semble, beaucoup sur la situation actuelle. Donc en effet, on pourrait y revenir. J'ai sous-titré cet ouvrage Le Front populaire, histoire pour aujourd'hui, même si je ne parle précisément pas d'aujourd'hui. Je laisse aux lectrices et aux lecteurs le soin peut-être d'en tirer, sinon les conclusions, du moins les hypothèses de réflexion stratégique, politique, culturelle pour la situation présente. Mais il me semble que c'est très inspirant à tous égards, cette période très inspirant justement pour l'énergie peut-être qu'on peut y puiser dans la ténacité, la combativité de l'époque, dans cette forme aussi de fédération, cette forme d'unité des gauches entendue au sens très large du terme, parce que c'est pas uniquement des partis politiques, hein, ce sont aussi des syndicats, des associations, des collectifs, des mouvements. C'est ça la gauche dans sa grande diversité, quand elle est capable de s'unir. Mais je voulais aussi comprendre, encore une fois, les difficultés et les obstacles. Et ça nous fait aussi réfléchir à la situation présente. Quand je dis que c'est inspirant, c'est que ça peut inspirer aussi si on est lucide. Ben, c'est ce qui m'intéressait. Peut-être pour terminer cette première réponse, c'est mener cet exercice sincère de lucidité. Et ça, ce sont les archives, ce sont les sources qui le permettent, qui m'ont fait découvrir beaucoup de choses aussi sur les déchirements, les tiraillements, comment ces hommes, parce que c'est quand même une histoire assez genrée, hein, ces hommes politiques, hein, principalement, dans toute leur sincérité. Ce sont des gens, en général, très sincères, à commencer par Léon Blum, qui est un peu la figure fétiche du Front populaire. Des gens pétris justement de cette honnêteté, de cette sincérité, qui ne sont pas opportunistes, qui n'apparaissent pas comme des girouettes du point de vue politique, mais qui sont confrontés à une situation particulièrement tragique. Je pense qu'on peut le dire, c'est une période qui est tragique à bien des égards et qui vont être amenés à faire des choix que souvent on méconnaît. On va pouvoir peut-être y revenir parce que je pense qu'il faut être très précis sur les choix qui ont été faits et que parfois on n'imagine pas en matière de politique budgétaire, de politique économique, financière, de politique coloniale, sur les enjeux des droits des femmes aussi, bien sûr. Donc, exercice de lucidité pour qu'on ne vive pas dans le mythe, la légende, mais qu'on puisse vraiment s'inspirer de cette période, y compris dans ce qu'elle a de radicalement difficile et dramatique.
Mais merci beaucoup. On va revenir sur tous ces aspects, mais peut-être d'abord, justement, comme vous le dites, cet effort de lucidité, surtout dans le contexte actuel où dès qu'une historienne, un historien étudie quelque chose de socialement engagé, c'est toujours le grand classique. Un historien qui étudie quelque chose de social, c'est un historien de gauche. Un historien qui étudie quelque chose de neutre, c'est un historien de droite. Mais là, on voit bien, et c'est là toute la richesse de votre livre, c'est que vous partez au début du livre du Front populaire, justement, vous l'avez dit, de ce mythe Léon Blum, et puis de l'image. Vous dites, Front populaire, c'est les congés payés. Mais vous allez expliquer dès le début qu'on a une contradiction fondamentale, où Léon Blum, qui se réclame du congrès de Tours, du socialisme révolutionnaire, qui aurait plutôt préféré un front unique, c'est-à-dire qui regroupe tous les mouvements prolétariens, révolutionnaires, anticapitalistes, mais qui finalement, ça ne sera pas un front unique, ça va être un front populaire. Et au sens où ça va regrouper à la fois la petite bourgeoisie et, on va dire, les mouvements prolétaires. Et c'est ce que vous nommez, vous parlez d'une contradiction, et que vous nommez dès l'introduction un nœud gordien qui explique en fait vos titres, qui n'est pas juste un jeu de mots, la bourse ou la vie, comme si le Front populaire, peut-être pour sans rentrer là encore tout de suite dans les détails, mais comme si l'histoire du Front populaire, si vous pouviez nous dire qu'est-ce que c'est que le Front populaire à l'aune de cette contradiction, la vie, l'utopie, la bourse, la réalité. Et donc, en fait, c'est ça le Front populaire. Vous allez à l'encontre de l'image qu'on en a, assez presque d'épinal, pour nous montrer que le Front populaire, c'est presque l'histoire d'une contradiction.
Oui, c'est l'histoire tragique de tensions profondes, en tout cas, et de paradoxes aussi. Et c'est vrai que le titre me paraît très important, et j'y tenais, et je suis aussi très reconnaissante à la découverte, à toute l'équipe éditoriale, d'avoir validé ce titre-là, La bourse ou la vie, parce que c'est là que se situe la ligne de crête qui va être en partie très difficile à parcourir, hein, la ligne de crête entre justement cette aspiration très vivante. C'est une époque d'effervescence, on a commencé à le dire. C'est une époque aussi qui peut apparaître à certains égards comme heureuse, joyeuse, parce que les protagonistes de ces mouvements sociaux qui commencent même avant 1936 ont le sentiment de reprendre possession de leur existence, de mieux maîtriser leur destin et puis d'avoir de grands espoirs, des espoirs de projets vraiment de changer la vie, comme le disait Rimbaud. C'est pas que ensuite un slogan du Parti socialiste. Donc c'est vraiment la vie, on exalte la vie, le vivant. Le fait d'avoir une vie différente et davantage émancipée des contraintes économiques, de l'exploitation, de l'oppression, parce que justement ce moment révèle aussi à quel point ces existences, notamment les existences des classes populaires, sont particulièrement difficiles. Et puis d'un autre côté, on a des enjeux économiques liés à la puissance de la finance, liés à ce qu'on appelle en général le mur d'argent, mais il faut voir très précisément ce dont il s'agit, et donc la bourse. Déjà dans un sens très pragmatique, hein, c'est vrai que la question des actionnaires, la question des capitaux, et puis la bourse de manière plus générale, comme l'enjeu sur le rapport entre finalement une question classique, mais matricielle fondamentale entre voilà, le capital et le travail. Il y a un rapport de force. On est dans un enjeu total de rapport de force, voire de bras de fer. Et la question, c'est comment est-ce que les gouvernements de Front Populaire vont approcher cette question du bras de fer? Est-ce qu'il faut le mener? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur les luttes sociales, sur l'importance des grèves, encore une fois? Est-ce qu'il faut même les encourager et les valider, leur donner encore davantage de force, ou est-ce qu'il faut plutôt les faire taire? Est-ce qu'il faut les faire cesser? Donc là, c'est un enjeu fondamental. Alors, pour répondre à la question de qu'est-ce que le Front Populaire en quelques mots, le Front Populaire ne se comprend pas s'il n'y a pas la prise de conscience de la menace fasciste ou fascisante, évidemment. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que le Front Populaire est un front antifasciste.
Et on va y revenir.
Absolument, peut-être dans le détail. Mais un front antifasciste offensif qui, dès lors, doit s'articuler, parce qu'il n'est pas que anti, à un programme réel, social, économique, pour faire face à la misère, pour faire face au chômage, pour faire face aux retombées dévastatrices de la crise déchirant la société française et de manière générale une grande partie du monde depuis 1929. Et donc ce Front Populaire va proposer justement des mesures véritablement de gauche pour que cet antifascisme trouve une matérialité concrète et un espoir, un projet qui puisse convaincre que ce n'est pas vers l'imposture fasciste, y compris l'imposture face pour les classes populaires, hein, l'imposture que représente le fascisme, qui va en général à l'encontre des intérêts des classes populaires, mais il faut viser une politique réellement de justice sociale. Mais en même temps, et c'est ce que vous indiquiez d'emblée, et je vous remercie de souligner dès l'abord voilà, cette tension primordiale, c'est que en fait, à gauche, dans toute sa diversité, comme je l'ai rappelé, il ne s'agit pas uniquement de partis politiques, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti radical, qui vont réussir à s'unir malgré leurs divergences. Ce qu'il faut rappeler au sujet de ces organisations, c'est que, en gros, elles sont polarisées. Il y a deux pôles déjà principaux. Il y a des forces marxistes. Les communistes et les socialistes se revendiquent du marxisme, c'est-à-dire se revendiquent de la lutte de classe, d'un antagonisme fondamental, et sont anticapitalistes. Et il ne faut pas s'imaginer d'ailleurs que les communistes seraient forcément plus durs à cet égard que les socialistes. Vous l'avez souligné, Léon Blum, par exemple, au moment du congrès de Tours, qui va marquer la séparation entre les socialistes et les communistes, reste fondamentalement révolutionnaire et anticapitaliste. Il ne rejette pas du tout l'idée qu'il faut une révolution contre le capital, contre la loi du marché. Donc il y a une vision commune sur l'idée que ce qui importe, ce sont les luttes sociales, les luttes prolétariennes, et qu'il faut gagner aussi à ces luttes d'autres couches de la société, par exemple une partie de la paysannerie, qui elle aussi écrasée par cette loi du marché, mais également une partie des classes moyennes. Donc c'est une vision du monde comme une explication d'ailleurs de la crise économique, encore une fois, qui fait des ravages dans la société, comme révélatrice de ce qu'est le capitalisme et cette loi du capital qui n'a pas les solutions à la crise dont il a été à l'origine et qu'il a enfanté. Donc voilà, il y a cette dimension-là, alors que le Parti radical, de son côté, n'a pas du tout cette tradition. Le Parti radical, né de la Révolution française, certes, mais qui met beaucoup à distance l'idée de révolution, à qui l'idée de révolution ou la perspective révolutionnaire fait désormais peur. Le Parti radical, qui est un peu la force pivot de la Troisième République, le Parti radical qui s'inspire de la philosophie des Lumières, qui s'appuie plutôt sur la petite bourgeoisie, sur les classes moyennes, les commerçants, les artisans indépendants, qui va défendre bec et ongle la propriété privée, y compris bien sûr la propriété privée des moyens de production, et qui se méfie beaucoup de la lutte de classe, qui considère que la lutte de classe, la conflictualité sociale est une menace à un certain ordre. C'est aussi un parti qui est laïque, profondément laïque, et ça, c'est peut-être un des points communs entre le Parti radical et le reste de la gauche, les socialistes et les communistes. Donc, je le rappelle parce que c'est très important d'avoir ça en tête, cette alliance qui va être réalisée via le Front populaire, était au départ sur le papier très compliqué, voire à certains égards inconcevable, parce qu'il y avait des détestations. Et peut-être que ça nous rassure aujourd'hui quand on voit l'émiettement de la gauche et aussi les antagonismes, l'hostilité, parfois pire, qu'on trouve dans les gauches en France aujourd'hui. Ben c'est peut-être assez réconfortant de se dire, en fait, les gauches de cette époque, dans les années 20 et le début des années 30, étaient peut-être dans un degré encore d'hostilité plus important, avec mais vraiment une détestation. Par exemple, les communistes, mais aussi les socialistes, considéraient que les radicaux faisaient le jeu du capital, y compris en participant à des gouvernements de droite. Le Parti radical, ça, ça va être aussi fondamental pour comprendre le Front populaire, est lui-même assez divisé entre une aile gauche progressiste et soucieuse justement d'aller dans le sens de la justice sociale, et une aile droite plus conservatrice qui va osciller entre des alliances de gauche et des alliances de droite. Donc les communistes et les socialistes peuvent considérer que les radicaux sont des traîtres à la cause de la gauche. Et pourtant, l'alliance va être réalisée. Donc c'est une alliance qui est vue comme une nécessité vitale, comme une nécessité existentielle, ce Front populaire, existentielle parce que face au fascisme, face à la conscience qu'il y a un danger fasciste, on se dit, mais le fascisme, c'est l'international de la mort. En fait, si le fascisme arrive au pouvoir, comme c'est déjà le cas en Italie depuis 1922 et en Allemagne depuis janvier 1933, alors c'est la possibilité même de lutter, de s'organiser, c'est la possibilité même, y compris de pouvoir critiquer le régime en place, d'avoir des syndicats, d'avoir des associations, des coopératives, des mutuelles, voilà, tout un système d'associations populaires, tout ça est directement pris pour cible, et de quelle façon ? D'une façon qui est mortelle par le fascisme, puisque le fascisme a aussi pour vocation première d'éliminer toute forme d'opposition, toute forme de lutte, toute forme de conflictualité. On peut se rappeler, par exemple, et la gauche française s'en souvient très bien, que les fascistes se sont constitués en Italie au moment des années rouges, 1919-1920, au moment où il y avait justement des grèves très importantes, des occupations, où il y avait des récupérations de terres dans la paysannerie, et puis que Mussolini est arrivé au pouvoir avec la bénédiction du roi Victor Emmanuel III en Italie, parce que se préparait une grève générale ouvrière préparée par les syndicats ouvriers. Donc le fascisme a aussi cette vocation-là, outre son racialisme, son antisémitisme structurel pour ce qui concerne les nazis, en tout cas, c'est moins le cas de Mussolini et des fascistes italiens, mais en tout cas, c'est cette vocation à écraser la gauche en général et le mouvement ouvrier en particulier, qui ont été les premières victimes des camps de concentration nazis ouverts dès février 1933. Ce sont justement des militantes et militants anarchistes, communistes, socialistes, libertaires. Et donc, voilà, le Front populaire se constitue dans cette conscience-là. Et peut-être un dernier mot à ce sujet, se constitue d'abord et avant tout par un mouvement qui vient de la base, qui vient du bas, qui vient d'une auto-organisation très profonde, avec énormément de comités, de collectifs, de rassemblements et d'appels à l'unité, d'aspiration à l'unité. Et cette unité, du coup, elle va se mener, en effet, peut-être parfois contre la direction des partis politiques qui, au départ, ils sont très réticents, étant donné justement ces divergences idéologique, politique, mais aussi stratégique et tactique. Donc il y a un énorme mouvement d'aspiration à fédérer les gauches dans une perspective antifasciste en 1934 et 1935.
Et merci, déjà on comprend vraiment tout ce que représente le Front populaire, et vraiment faut le dire, moi j'insiste pour tout le monde, l'ouvrage se lit extrêmement facilement, on a plein de courts chapitres. Ce qui est quand même pas le cas de tous les livres d'histoire où on peut les dévorer là comme cela. Et ici, on voit vraiment. Alors c'est votre touche sur la plupart des ouvrages, mais là, je trouve que le rapport aux sources, aux matériaux que vous développez dans cet ouvrage, j'aimerais juste y revenir, mais en vous citant, vous décrivez un tout petit peu votre méthode et vraiment qui, je pense, je vous vous copierez pour le dire aux étudiants. Et vous dites d'abord, vous dites, lire longuement et patiemment, puis faire comme si on n'avait rien lu, se défaire de toute autorité préalable, de tout savoir second, pour retrouver le tranchant de l'histoire au vif des sources de première main, plongé dans les archives des années durant. Et c'est comme ça que vous avez retrouvé ce qu'il y a de populaire dans ce Front populaire. Vous nous citez, ça peut être le récit d'un militant français qui parcourt l'Allemagne en vélo et qui nous décrit le fascisme, mais des fois on plonge dans les livres de contes de Vincent Auriol, puis dans le roman de Tristan Rémy sur les occupations d'usines qui s'appelle les habitations plutôt d'usines en 37. Après, vous allez dans les correspondances du ministre des colonies. Bon, cette attention aux sources, bien sûr, c'est le propre de tout travail d'historienne, d'historien. Mais là, pour vous, c'est presque chaque paragraphe. On est dans les sources. Est-ce que c'était une volonté particulière pour justement retrouver un peu cette histoire au ras du sol? Ça se trouve, vous pouvez très bien me dire non, pas du tout, c'est comme ça que je fais à chaque fois. Mais là, on a vraiment l'impression, c'est pour ça que le livre se lit aussi facilement, parce qu'on est vraiment au plus près de tous les acteurs. Et en fait, la complexité que vous restituez nous semble en fait très simple, parce qu'elle est restituée dans la vie du quotidien. Donc je voulais savoir si il y a vraiment, vous avez porté une attention particulière ici, peut-être encore plus que d'habitude, aux matériaux.
Alors en effet, c'est la base du métier de l'historienne et de l'historien. Et j'avoue que parfois, je suis un peu frustrée dans certains ouvrages. Et bien sûr, je vais avoir la charité de n'en citer aucun. Mais de manquer.
Voilà, c'est la base, mais on sait que tout le monde ne le fait pas.
De manquer parfois de sources, parce qu'à force de faire des synthèses et des synthèses de synthèses, on en perd la réalité complexe et très vivante, en effet, de ces moments-là. Et voilà, en l'occurrence, le Front populaire, je pense qu'il y a une double exigence. Bon, d'abord, il y a ce goût de l'archive, et ça fait toujours beaucoup de bien de se plonger dans les archives et de voir les gens vivre, et en particulier les femmes et les hommes considérés comme ordinaires, parfois qu'on appelle anonymes. Et bon, j'aime pas évidemment cette épithète, parce que ces personnes ne sont pas anonymes, ont des noms, ont des espoirs, ont des projets, etc. Et donc on les voit vivre dans les archives, et ça, c'est passionnant. Et par exemple, beaucoup, beaucoup d'archives locales articulées à des archives nationales, des archives du pouvoir. Mais c'est voilà, ça m'importait énormément. Et du coup, en termes d'ailleurs de dispositifs d'écriture, avoir à certains moments des suspens dans le récit, des suspens du temps, des suspens de l'écriture, pour avoir des moments un peu de respiration où on voit des scènes qui sont peut-être encore plus incarnées. Ça peut être une grève, ça peut être des gens qui se retrouvent dans des commissariats de police pour des raisons un peu aberrantes. Ça peut être des paysans de Cochinchine ou de la NAM dans des situations justement de travail ou de lutte, aussi bien que, en effet, des correspondances du gouverneur de la Banque de France avec le ministre des Finances. Donc, c'était articuler les niveaux pour bien rendre charnel cette histoire et en même temps y réfléchir avec des axes qui nous permettent de comprendre la période dans ses grands enjeux, dans ses grandes problématiques. Et là, je voulais le faire d'autant plus pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure sur le Front populaire, parce que je trouve que, enfin, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais finalement, c'est en effet sont toujours les mêmes images qui nous viennent à l'esprit, et puis des grands thèmes, des grandes phrases. Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue, disait Maurice Thorez. Tout est possible, de Marceau Pivert. Mais non, tout n'est pas possible, rétorque l'Humanité, par exemple. Ou évidemment, bien sûr, les grandes images des grèves, des occupations, des tandems qui vont permettre de flâner et de redécouvrir le pays, et puis d'aller pourquoi pas au bord de la mer, et puis ensuite c'est la pause en 1937. Donc moi, je voulais vraiment aller voir d'encore plus près, peut-être que d'habitude. Je trouve qu'il y a un enjeu majeur, et c'est pour ça que j'y ai passé finalement plusieurs années, en effet 4 ans de travail dans les archives un peu partout, pour ne rien négliger, y compris de ce qui est souvent, ce qui constitue souvent des angles morts dans les ouvrages sur le Front populaire. Je pense en particulier à la politique coloniale, Souvent, c'est deux phrases ou un paragraphe, alors que c'est un enjeu absolument majeur. Je crois que c'est très, très important de revenir à cette dimension-là, parce que dans les colonies, il y a tout un des peuples entiers qui se sont soulevés, notamment pour soutenir le Front populaire, et qu'on a vu vivre dans des mobilisations très, très importantes, en effet, de Madagascar à la dite Indochine, le Vietnam en particulier, l'Algérie, la Tunisie, et une politique du Front populaire qui a été très compliquée vis-à-vis du colonialisme. La question, bien sûr, des femmes a été très, très importante. Et puis, les archives aussi pour comprendre les dilemmes, en fait, les dilemmes auxquels se sont confrontés ces hommes au pouvoir. Et là, on apprend beaucoup, en fait. Moi, j'avais l'impression de bien connaître cette période déjà, mais en fait, les archives ont complètement bouleversé ce que j'en savais, en particulier quand il s'agit de prendre des décisions qui parfois peuvent apparaître paradoxales. Hein, pour le dire d'un mot, par exemple, sait-on que le Front populaire a mené une politique libérale du point de vue économique et assumé comme libéral, que Vincent Auriol et Léon Blum, Vincent Blum, c'est intéressant cette contraction, ce lapsus, parce qu'ils sont tellement proches tous les deux, et c'est beau de les voir dans leur amitié, Vincent Auriol, ministre des Finances, et puis Léon Blum, évidemment, président du Conseil, il y a une grande amitié entre eux, une grande complicité, mais justement, leur correspondance est très évocatrice des tourments qu'ils peuvent éprouver. Et c'est une politique qui est très tourmentée. Sait-on, par exemple, qu'en fait, un des grands axes des gouvernements de Front populaire, ça a été de faire cesser les grèves, de dire « il faut revenir à l'ordre ». Sait-on que c'est aussi à cette époque, à l'hiver 1936, que ces gouvernements ont pris des mesures pour tenter d'éviter les grèves, ce qu'on a appelé la loi sur l'arbitrage, pour faire en sorte que, avant toute mobilisation, avant toute grève, il s'est agi d'être obligé de tenter de négocier et donc de recourir à un arbitre, deux arbitres, etc. Voilà, ça, ce sont quelques exemples qui, me semble-t-il, sont vraiment moins connus, mais auxquels il faut réfléchir de manière très pragmatique et, comme je disais tout à l'heure, le plus lucidement possible, pour y voir clair.
Et tout à fait, ça nous donne l'occasion, on peut revenir, alors bien sûr pas sur tout le livre, mais sur des moments clés. Et le premier, vous l'avez déjà évoqué, c'est quand même, vous nous replongez dans ces débuts des années 30, où, pour les gauches françaises, où la République fait débat. C'est-à-dire que avoir une République comme modèle de gouvernement n'est pas quelque chose qui fait forcément encore consensus dans les gauches. Certains trouvent que c'est une république en fait conservatrice, qui promeut la bourgeoisie, les intérêts du capital. D'autres sont vraiment pour une vraie révolution qui donnerait une république véritablement populaire. Donc il y a énormément de débats. Et puis vous l'expliquez, et là il y a la menace fasciste. Donc 33, 34, l'Allemagne, l'Italie. Et puis là, vous nous montrez qu'il y a le slogan qui apparaît: la rue n'appartient pas aux fascistes. Et c'est comme ça que cette union qui semblait improbable, une république qui était contestée, il va y avoir cette union autour de la république qui serait à défendre. Mais, et c'est là où vous ne contentez pas de dire, bon, alors il y a l'Allemagne nazie, il y a l'Italie fasciste, donc il y a l'union. Non, vous l'avez déjà évoqué, mais je pense qu'on pourrait revenir là-dessus, de 34 à 36, Vous redonnez bien cette dimension, les heurts, comme à quel point l'Union, ce Front populaire, se fait dans un climat, mais de tension, où on n'a pas l'habitude d'en entendre parler à ce point-là. Comment on en arrive au Front populaire? De cette menace fasciste au Front populaire, on a l'impression que le débat politique est 100 fois plus enflammé que ce qu'on imaginait.
Absolument. Alors, je voudrais d'abord revenir, en effet, sur cette question qui est fondamentale du rapport à la République. Les gauches sont républicaines. Toutes se reconnaissent dans l'idée d'une République. Simplement, ce n'est pas forcément la même. Et d'ailleurs, il y a une conscience historique très, très forte. Les socialistes, par exemple, se revendiquent beaucoup du moment 1848, qui, en général, dans notre culture historique est un peu orpheline, un peu délaissée, un peu moins connue que les autres grands moments révolutionnaires. en 1848, donc avènement de la Seconde République. Là, c'est comme s'il y avait deux républiques possibles. Et ça s'est vraiment joué à ce moment-là. Je vous renvoie d'ailleurs à ce magnifique livre que je cite très souvent, de Samuel Hayat, 1848, quand la République était révolutionnaire. C'est un bijou. Donc, en fait, deux voies possibles. Une République déjà considérée à l'époque comme bourgeoise, représentative, relativement conservatrice, qui ne veut pas trop d'ébullition populaire, qui va assez vite se contenter de droits civiques, suffrage dit universel, mais uniquement masculin, mais pas véritablement de droits sociaux, pas de droits au travail, fermeture des clubs qui étaient des lieux de discussion politique, liberté de la presse assez vite mise en cause. Et puis un autre type de république qui serait une république dite sociale et universelle, mais c'est-à-dire une république beaucoup plus populaire, avec davantage de protagonisme populaire en son sein. La capacité de décider, de délibérer, de s'organiser à toutes les échelles, notamment au niveau local, de déléguer des mandatés pour réfléchir justement aux décisions à prendre. En fait, ce clivage-là, qu'on retrouve évidemment ensuite sous la Commune de Paris en 1871, eh bien, il divise les gauches. C'est-à-dire que c'est pas du tout que la République serait rejetée, mais on considère chez les socialistes et les communistes à l'époque, au début des années 30, que la Troisième République est une République assez conservatrice, qui est très inégalitaire structurellement d'un point de vue social. Il y a des inégalités systémiques qui sont pointées du doigt. C'est aussi une république qui est considérée comme coloniale, qui va reproduire justement un système de colonialisme oppresseur. Et donc, il y a d'autres modèles de république du côté de ces gauches-là qui sont proposés, notamment pour les communistes et la République des Soviets. Les socialistes d'ailleurs sont assez convaincus par cette idée des soviets, hein. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'au fond, les soviets, qu'est-ce que c'est? C'est pas le stalinisme, hein. Les soviets, c'est d'abord des conseils, des comités dans les usines, dans les quartiers, dans les campagnes, dans les villes, qui vont instaurer justement une république censée être plus populaire. Le problème ensuite de l'Union soviétique, c'est que très vite, les soviets, entendus dans ce sens-là, ont disparu sous une vague très autoritaire et finalement antidémocratique. Donc voilà, il y a un vrai débat. Et dès lors, pour cette gauche, et notamment les socialistes et les communistes, et a fortiori les anarchistes, les libertaires, cette république apparaît trop bourgeoise. Mais en effet, comme vous l'avez très bien évoqué, tous et toutes vont se rendre à l'évidence que, en tout cas, face au risque fasciste, où on voit que dès que les fascistes arrivent au pouvoir, tous les droits, toutes les libertés fondamentales, individuelles et collectives, sont balayées, laminées et même massacrées dans le sang, hein, il faut défendre la République, cette République-là, il faut défendre la liberté, et notamment la liberté de pouvoir la critiquer. Donc ce front antifasciste va se constituer autour de cette idée que, voilà, il faut un front républicain face au fascisme. Et dès lors, en effet, avec cette ébullition dans tout le pays, cette ébullition antifasciste, qui va réussir à aller à l'encontre des divergences et des divisions. Il faut quand même se rappeler que les communistes, les dirigeants communistes à l'époque, traitaient les socialistes de sociotraîtres, voire parlaient de social-fascisme. Depuis 1928, c'était le social-fascisme. Donc pour eux, il était hors de question de se compromettre avec les socialistes. Les communistes s'étaient beaucoup isolés, il y avait une ligne qui était très sectaire. Et donc, on ne peut pas comprendre non plus le Front populaire et cette alliance qui apparaît du coup très incongrue. Parce que, je vous rappelle que, voilà, outre le fait qu'il y avait ces insultes social-fascistes, quand même, à propos des socialistes, de la part des dirigeants communistes, mais c'était aussi, par exemple, du côté des communistes, on rejetait absolument l'idée de patrie, l'idée de drapeau tricolore. Le poète Aragon, donc compagnon de route communiste, avait dit le tricolore à la voirie. Voilà, c'était une étoffe qu'il fallait jeter parce que c'était ce patriotisme confinant au nationalisme exacerbé qui avait conduit à la boucherie, à la barbarie de la dite Grande Guerre. Et donc, on ne peut pas comprendre finalement cette alliance si on n'a pas à l'esprit aussi une dimension très internationale. On en a parlé bien sûr avec le fascisme italien et le nazisme en Allemagne, mais aussi bien sûr la politique de l'Union soviétique. Bon, ça, en général, c'est bien connu. Il y a eu un retournement à 180 degrés de la politique du Comintern, de l'international communiste. C'est-à-dire, après cette tactique classe contre classe, donc à part les communistes, tous les autres sont des traîtres, il y a eu ce retournement radical, parce que Staline et les dirigeants de l'Union soviétique, et donc la direction du Comintern, de l'international communiste, dite Troisième Internationale, se sont rendus compte que là, il y avait un risque réel pour l'existence même de l'URSS, de l'Union soviétique, et que donc il fallait tout faire pour armer l'antifascisme. Du coup, ça a signifié tendre la main à la République française, le pacte Laval-Staline de 1935, qui va vraiment être une grande surprise, parce que Laval, c'est un homme de droite. Pierre Laval, c'est quelqu'un qui, bon, on peut pas le savoir à l'époque, hein, bien sûr, mais on va le retrouver plus tard. Faut pas faire de téléologie, hein, en histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après. Bon, je peux pas refaire la lecture à partir de ce qui se passe après, mais quoi qu'il en soit, Pierre Laval, qu'on va retrouver chez Pétain pendant la collaboration, et Laval qui va être un horrible collaborateur, qui va être responsable notamment de la déportation d'enfants juifs, Laval, c'est un homme de droite fondamentalement, et Staline, voilà, s'allie avec Laval pour un pacte offensif militaire. Et du coup, retournement total de la politique et même de la vision du monde des communistes. Parfois, c'est difficile à avaler. Hein. Certains parlent de couleuvres à avaler et certains autres vont parler de vipères à avaler. Pas seulement des couleuvres, qui doivent être plus douces à la bouche. Mais c'est vraiment l'idée que tout à coup, on se rallie à l'idée de la France, de la patrie. On va chanter la Marseillaise alors que c'était complètement proscrit dans les manifestations communistes. Le drapeau tricolore allié au drapeau rouge. Et pourquoi ? Et justement, faire l'alliance, tendre la main, comme le disait Maurice Thorez, tendre la main aux radicaux, bien sûr, mais même éventuellement aux catholiques, à certains croix de feu, qui sont une ligue vraiment de droite dure, parce qu'il faut à toute force faire un front très, 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 très large contre le fascisme. Et donc, ça va changer radicalement la politique communiste. Et il va y avoir plein de paradoxes, du coup. Par exemple, dans l'élaboration du programme, qui est d'abord un programme de rassemblement populaire. Les socialistes vont dire, mais vous, les communistes, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous abandonnez des pans entiers de ce qui est notre programme commun, au fond. Par exemple, les nationalisations. Pour les socialistes, pour Léon Blum, par exemple, c'était vraiment fondamental, les nationalisations. C'était vraiment faire en sorte que l'État s'approprie pour le bien commun, pour la collectivité, des pans entiers de l'économie, des secteurs clés de l'économie, la finance, les banques, les assurances, et puis des grands secteurs industriels, parce que ça allait permettre aussi de relancer l'économie, que l'État allait engranger certains bénéfices, mais pour mieux redistribuer ces profits-là, donc pour qu'ils ne soient pas des profits privés de la loi du marché, pour justement ne pas appliquer la loi du marché, la loi du profit à toute force à tous ces secteurs. Et les communistes disent non, non, pas de nationalisation, parce que ça pourrait faire peur aux radicaux avec qui il s'agit désormais de faire alliance. Donc voilà, je le dis très rapidement et un peu à la serpe, mais du coup, il faut mesurer le tournant total que ça a représenté, mais dans une logique antifasciste.
Eh bien, justement, allons-y sur ce tournant total, parce qu'on contextualise, etc. Mais alors, le Front populaire en tant que tel, vous le montrez, bon, il y a trois grandes lois, alors il y a bien plus, hein. D'abord un immense mouvement ouvrier qui en fait va porter ses revendications, puisque c'est le Front populaire qui mettra fin à leur grève, et puis il y a le Front populaire, donc leurs trois lois, les congés payés, les 40 heures hebdomadaires, les conventions collectives en entreprise, et vous le dites que ça représente un rapport, vous évoquez un rapport de nature anthropologique. Parce que vous le dites, bah, avec le Front populaire, 36-37, c'est bref, oui, mais ces lois, ça nous donne une porte sur un changement du rapport au temps. Et alors, est-ce que vous pouvez, alors bien sûr, là, on a des passages qui sont extrêmement détaillés, mais est-ce que vous pouvez nous dire, parce que je pense que c'est quand même fondamental, on contextualise le Front populaire, puis surtout ses échecs ou ses limites, mais il y a quand même eu un changement incroyable.
Oui, et alors justement, pour faire écho à ce que nous venons de dire l'un et l'autre sur les conditions de l'alliance, du coup, le programme du Front populaire, il était assez minimal, hein. Il était vraiment minimaliste, il n'y avait pas énormément de mesures. Et aucune de ces trois grandes réformes qu'on peut appeler quasiment des réformes révolutionnaires, au sens où ce sont quand même des réformes de structure qui sont radicales, au sens où elles vont quand même à la racine du système, elles ne figuraient pas du tout dans le programme du Front populaire. C'est-à-dire les congés payés, les 40 heures et les conventions collectives. Donc on peut en effet expliquer rapidement en quoi ce sont des mesures très profondes qui ont pour objectif de changer la vie. Qu'est-ce qui a permis d'arracher ces conquêtes sociales qui sont extraordinaires pour l'époque et encore aujourd'hui, il faut toujours le mesurer, hein, c'est précisément la grève. C'est quand même 2 millions de personnes en grève. Et alors là, c'était passionnant de voir cette grève dans plein de métiers, dans plein d'endroits, dans plein de villes, même dans des campagnes. Donc cette ébullition de la grève très auto-organisée et qui passe par ces occupations particulièrement subversives des lieux de travail. Comme vous le disiez, c'est un peu comme si on habitait les lieux de travail et on n'y subit plus ces conditions d'exploitation. Alors, on connaît en général très bien le très beau texte de Simone Veil, la philosophe qui travaillait chez Renault à Billancourt, qui parle de cette joie pure de la grève et de l'occupation, de métamorphoser les lieux qui étaient des lieux d'oppression en des lieux de joie, de se sentir respirer et puis en se parlant, etc. Bon, ça, c'est toujours l'effet des grèves comme ça, des grèves aussi profondes et aussi intense, avec aussi la présence de nombreuses femmes. Donc, en fait, ces trois mesures, elles n'existeraient pas sans cette grève. Bon, c'est déjà important de le savoir. Donc, on parlait tout à l'heure de rapport de force et de bras de fer. Le patronat a eu très, très peur à ce moment-là. Il est prêt à céder sur un certain nombre d'aspects complètement inattendus. Une partie de l'aile droite, justement, des radicaux, voit d'un très mauvais œil cette grève. Hein. Ça fait très, très peur à cette aile droite des radicaux, comme je disais. Hein. Ils peuvent être conservateurs à certains égards. C'est ça qui va être aussi compliqué dans cette alliance. Alors, pourquoi est-ce que je parle quasiment d'une révolution anthropologique, au moins pour les congés payés? C'est qu'on s'en rend plus compte aujourd'hui, mais congés payés, c'est un oxymore. Hein. Ça ne va pas ensemble, payer et congés. Et à cette époque, c'est inimaginable. Et enfin, voilà, c'est anthropologique au sens où ça concerne l'histoire de l'humanité. Hein. On n'avait jamais vu que des gens au travail, des travailleuses et des travailleurs, puissent être rémunérés à faire autre chose que travailler. Donc ça, c'est énormissime. C'est une mesure gigantesque dont on ne mesure plus l'ampleur aujourd'hui, tellement on se l'est approprié, bien sûr. Mais c'est quelque chose de considérable. Je monte dans tout un chapitre les difficultés à le mettre en œuvre, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une loi. Voilà. Après, il faut toujours ce rapport de force. Et ce rapport de force, il ne va pas s'arrêter en juin 1936. Il se poursuit vraiment dans des conflits. Et donc, chaque acquis doit être disputé âprement. Mais quand j'ai payé, c'est énorme. Mais au point que, voilà, il y a même... c'est passionnant. Bon, il faut lire le livre. Mais par exemple, on a des inspecteurs du travail qui vont essayer de bien contrôler que les gens ne travaillent pas pendant leur congé. C'est-à-dire que certains sont tellement peu habitués et puis doivent aussi... Enfin, c'est quand même un moment de misère sociale, il faut le voir. Hein. Les salaires sont très, très bas, etc. Donc, il y a des gens qui vont profiter. Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde va, ça y est, en vacances, hein. Non, déjà, on se repose, on peut rester chez soi ou aller voir sa famille dans le village voisin. Tout le monde ne part pas en vacances. Voilà, ça aussi, c'est un peu une légende, même si, bien sûr, il y a eu quand même la découverte de la mer, la découverte de la montagne. Mais bon, et il y a des gens qui profitent de leur congé payé pour aller travailler à tel ou tel endroit pour améliorer un peu le quotidien. Et donc là, on va avoir une espèce de police du repos. Inspecteur du travail, ouais, mais c'est en fait, et c'est poignant. C'est pour ça que je vous disais, parfois il y a des scènes où des ouvriers et ouvrières qui sont pauvres, réellement pauvres, qui se retrouvent dans des commissariats de police parce que il et elle ont travaillé pendant leur congé, et donc on va leur réclamer en fait les indemnités touchées pour congé payé. Enfin, il y a vraiment des conflits qu'on n'imagine pas à cette époque. Les 40 heures. Alors, c'est moins directement anthropologique. Il y avait cette idée qu'il fallait diminuer le temps de travail. Et c'est vraiment une mesure qui est conçue pour relancer l'économie. C'est finalement quelque chose... L'inspiration, c'est le New Deal de Roosevelt. Hein. C'est, on va ranimer l'économie par une relance de la consommation, politique de la demande, assez classique finalement, qu'on va appeler plus tard le keynésianisme. Parce que Keynes, c'est ce qu'il propose à ce moment-là aux États-Unis. Et on a vu, en fait, il y a déjà beaucoup de pays qui sont passés à une diminution assez drastique du temps de travail, y compris en Allemagne, d'ailleurs. Du coup, c'est voilà, l'idée que cette mesure, elle va être favorable à l'économie. Mais là aussi, là, j'essaie de le raconter de manière la plus incarnée possible, mais c'est très difficile de mettre en place ces 40 heures. Et donc là aussi, c'est pareil, il ne suffit pas qu'il y ait une loi, encore faut-il qu'il y ait des décrets d'application, et encore faut-il qu'il y ait une mise en œuvre réelle. Et le temps que ça commence à s'appliquer, bah très vite, cette loi va être remise en cause, y compris par les gouvernements de Front Populaire eux-mêmes, parce qu'ils vont dire, en fait, il faut relancer l'économie aussi, relancer le réarmement de la France. Et dès lors, bah, il faut repasser aux 48 heures. Ou voilà. Bon, il y a plein de dérogations. Et la dernière loi, je l'évoque rapidement ici pour l'instant, ce sont les conventions collectives. Et là aussi, c'est une mesure très, très importante dont on ne mesure plus assez, finalement, les conséquences dans le droit du travail et la représentation collective des salariés qui n'ont plus cette individualisation des conditions de travail. Là, il y a vraiment la reconnaissance du collectif, la reconnaissance de la qualification par branche, et c'est très important dans les manières aussi de revendiquer ses droits dignement, c'est-à-dire de ne pas être écrasé par la pression du patron au niveau local. Donc ça, c'est énorme aussi, les conventions collectives qui n'étaient pas prévues dans le programme.
Et justement, face à ce programme, alors là, bien sûr, il faudrait lire le livre, on a ce nœud gordien. Comme vous dites, c'est un gouvernement qui promet une immense réforme sociale et qui reconnaît lui-même mener une politique libérale. C'est un gouvernement qui promeut l'humain et c'est un gouvernement qui, malgré une ou deux réformes qui d'ailleurs restent lettre morte, qui est colonialiste. C'est un gouvernement qui dit se battre contre le mur d'argent et qui travaille de facto quand même avec le patronat. Bon, vous montrez toutes ces contradictions et vous expliquez bien le pourquoi du comment, bah, la bourse ou la vie. Et là, vraiment, c'est le fil directeur qui nous montre la chair, en fait, d'une politique. Mais si on arrive au terme de cette année de Front Populaire, il y a la chute. Il y a le Front Populaire qui perd, finalement, enfin, qui s'arrête. Et vous expliquez, on voit bien, or ça ne les minimise pas, mais on voit bien l'ampleur des attaques personnelles contre Blum, toutes les attaques antisémites dont il est l'objet. Mais vous réussissez à aller au-delà en nous expliquant qu'il y a une haine, et vraiment vous employez le terme et vous montrez, il y a une haine, vous dites, qui est doctrinale et qu'il y a une haine qui est structurée et que c'est ça qui va conduire à l'échec ou, disons, à la fin du Front Populaire. Alors, comment elle fonctionne, cette haine que déchaîne Léon Blum et, en fait, plus largement, ce Front Populaire?
Oui, alors, il y a un chapitre tout entier qui est intitulé « La haine ».
Et puis, on le voit de long en large.
Absolument. Bon, alors, peut-être pour quand même dire deux mots sur cette question de la politique économique libérale, et c'est vraiment passionnant quand on voit les correspondances entre ministre des Finances et gouverneur de la Banque de France, avec ce paradoxe que Émile Lavery, le gouverneur de la Banque de France, dit « mais il faut mener une politique vraiment de gauche pour empêcher la fuite des capitaux ». Pour empêcher ce mur d'argent de nous écraser et qui nous prive des réformes, notamment qu'on voulait mener contre le chômage, parce qu'il y a toujours un problème structurel de chômage et c'est terrible. Et j'essaie d'évoquer aussi les conditions de vie des chômeuses et des chômeurs de l'époque. Et en fait, il dit par exemple, il faut un contrôle d'échange, il faut véritablement une sorte de conseil de révision pour les banques, c'est-à-dire qu'on comprenne qu'il y ait la transparence du système bancaire, financier, etc. Et Vincent Auriol a une autre stratégie qui dit non, en fait, ça va faire peur aux porteurs de capitaux. Donc il faut au contraire mener une politique libérale, y compris du point de vue fiscal, pour que ces investisseurs, ces capitalistes reviennent en France, ne laissent pas dormir, thésauriser leurs capitaux ou ne les laissent pas acheter des lingots. J'ai même trouvé des listes entières des lingots à l'étranger, trouvé des listes entières de gens plus ou moins célèbres, dont Pétain, qui va placer son argent à l'étranger, hein, en Suisse ou en Angleterre. Donc c'est déjà ça, cette difficulté structurelle, avec une sorte, peut-être, on peut dire, de candeur de la part de Léon Blum ou de Vincent Auriol, c'est-à-dire qu'il pense vraiment que, au nom des intérêts supérieurs de la patrie et de la France, les capitalistes vont réinvestir en France. Et c'est pas ça qui se déroule. Ça, c'est un premier aspect de cette détestation du Front populaire, qui, comme vous l'avez dit, est tout à fait doctrinale. Il y a vraiment cette main tendue. D'ailleurs, le Front populaire, on peut considérer qu'il s'arrête au printemps 1938, quand Léon Blum propose un deuxième gouvernement Blum, qui sera un gouvernement qu'il appelle un gouvernement d'union sacrée, qui irait des communistes à la droite. Et la droite lui refuse. Mais pourquoi est-ce qu'elle lui ferait cette faveur, en fait? Puisque justement, il y a cette détestation de ce qu'est la gauche en général, de ce que sont les communistes en particulier. Même Léon Blum, par exemple, il est traité d'extrême gauche, hein, par un François Mauriac, qui dit, mais Blum, tout ça, les socialistes, c'est l'extrême gauche. Je ne sais pas si ça vous rappelle des débats sémantiques récents. Bref, et donc il y a une détestation qui est une détestation à la fois antisémite, mais bien sûr, et là je le montre à quel point on s'imagine même pas cet antisémitisme viscéral qui est à vomir, vraiment, ça va très très loin, c'est des appels au meurtre, hein, compris de la part de Charles Maurras, hein, qui dirige l'Action française à l'époque. On comprend pas trop comment il a été possible qu'on envisage de rendre un hommage national à Maurras, hein, qui est d'un antisémitisme purulent, vraiment, qui est monstrueux. Mais c'est donc une haine antisémite, mais c'est aussi une haine à l'égard de ce que représente cette gauche, de ce que représente aussi ce mouvement ouvrier, le mouvement syndical, etc. Et donc, c'est une haine qui va très loin, qui va pousser Roger Salengro, Premier ministre de l'Intérieur de cette période, au suicide en novembre 1936. Voilà, c'est une haine qui est viscérale et qui explique, en effet, en partie, mais pas seulement, l'échec du Front populaire. Faut se rappeler qu'on est aussi au cœur de la tragédie de la guerre d'Espagne. Là aussi, hein, bien sûr, il faudrait développer, hein, mais... la décision de non-intervention de la part de Léon Blum, qui est très grave, et c'est une blessure, c'est une déchirure qui sera jamais véritablement réparée. Et c'est aussi un tournant pour Blum et les membres du gouvernement, hein. C'est-à-dire ne pas aider l'Espagne, mais ça signifie en fait faire l'embargo sur l'Espagne, le boycott de l'Espagne. Donc en fait, le gouvernement républicain espagnol ne peut même plus se fournir ni en armes, ni en ravitaillement alimentaire avec cette non-intervention. Mais tout ça s'explique par la peur, en fait. Il y a vraiment une peur du Front populaire face à ce degré de haine, face à ce degré d'hostilité, une peur aussi face à l'idée de révolution. Ça peut apparaître paradoxal. On ne peut pas trop développer, hein, malheureusement, mais il faut vraiment comprendre qu'il y a une peur de la supposée contagion révolutionnaire qui se déroule en Espagne. Mais en tout cas, la haine terrible qui se déverse sur le Front populaire explique aussi la volonté, au contraire, d'être prudent, d'être légaliste, d'être très respectueux des institutions, y compris quand ces institutions de la Troisième République, notamment incarnées par le Sénat, y compris donc des sénateurs radicaux du Parti radical, pourtant alliés du Front populaire, mais vont s'opposer à tant de mesures du Front populaire. Par exemple, pas de droit de vote pour les femmes, et parce que les sénateurs ne décident de ne même pas discuter de ce projet, alors que le mouvement féministe était gigantesque. C'était des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes organisées dans des associations féministes, notamment réclamant le suffrage des femmes et, de manière plus générale, une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, là aussi, le Front populaire a échoué. Il y a plein de raisons, hein, qui sont un écheveau complexe et, comme je le disais, je l'ai répété, tragique. Voilà. On peut difficilement imaginer une période plus tragique que celle-là, puisqu'il y a la menace fasciste généralisée, qu'il y a la guerre d'Espagne, qu'il faut résoudre ce dilemme. Est-ce que une grande partie des finances publiques doit être consacré à réarmer le pays, et c'est le choix que va faire Léon Blum. Et c'est d'ailleurs effrayant qu'il soit ensuite, en 1942, traduit dans un infâme procès, le procès de Rion sous Pétain. Pétain qui va l'accuser d'avoir perdu la France, alors que Blum a davantage réarmé que le gouvernement d'Oumergue et Laval, où figurait le maréchal Pétain, on s'en souvient mal, mais Pétain avait déjà participé à des gouvernements de droite avant le Front populaire, et le gouvernement Blum donc a davantage réarmé la France que Pétain lorsqu'il était ministre notamment de la Défense et de la Guerre.
Et donc, on le voit bien, et vous l'aurez compris, qu'on aborde dans ce livre une quantité de sujets. Moi, à lire votre livre, ça m'a fait penser tout du long au livre de Michel Foucault, « Il faut défendre la société ». Aujourd'hui, on a besoin, plus que jamais, on a besoin de science. Et c'était bien ça, le livre de Michel Foucault. Et vous avez intitulé votre livre, « La bourse ou la vie, Front populaire, histoire pour aujourd'hui ». Vous parlez, et on est dans les années 30, 36, 37, 38, vous parlez du mot extrême-gauche. Vous dites bien comment il apparaît. Et vous expliquez que l'extrême-gauche n'est pas un mot employé pour désigner, mais un mot employé pour disqualifier. Vous expliquez tout ce processus qui fait qu'en fait, la désignation du Front populaire comme relevant de l'extrême-gauche relève d'un stigmate idéologique et non pas de l'analyse sociale. Et là, on a l'impression de lire un journal, s'il en existait, d'aujourd'hui. Parce que vous expliquez que ce mot d'extrême-gauche est non seulement inventé par un mur d'argent, celui du patronat, mais aussi par un mur de papier, car quelques millionnaires détiennent des médias qui soutiennent le patronat et qui organisent la disqualification idéologique d'idées de gauche qu'ils vont disqualifier en les nommant d'extrême. Donc, histoire pour aujourd'hui, comment est-ce que vous positionnez sur à quel point on a besoin de cette histoire pour comprendre notre présent?
C'est vrai que d'ores et déjà, beaucoup de lectrices et lecteurs m'ont dit qu'ils et elles avaient l'impression de lire une histoire qui parle de maintenant, que c'est très, très, très frappant. Et c'est vrai que moi aussi, bien évidemment, ça m'a beaucoup frappé et ça fait réfléchir profondément, je crois, à la situation actuelle. En effet, il y a déjà les Bolloré, l'équivalent de Bolloré à cette époque. Donc, comment faire face à la puissance et de la finance? Et c'est souvent la même, la puissance médiatique d'une véritable machine de guerre lancée contre toutes les réformes, parce qu'il s'agit de réformes, c'est pas la révolution, le Front populaire, et pour cause, on a expliqué pourquoi ça ne peut pas être une révolution du point de vue de ceux qui arrivent au pouvoir, mais ce sont des réformes de justice sociale. Et cette haine, elle porte tout simplement sur ces réformes. Et donc, il y a en effet un mur d'argent et un mur de papier, au sens où ces milliardaires qui possèdent la plupart des journaux de l'époque vont être un déversoir de fausses informations, de diffamations, de falsifications systématiques. Et donc, en effet, par exemple, ce stigmate supposé stigmate, dit de l'extrême-gauche, puisqu'en fait, c'est pas du tout un programme d'extrême-gauche, c'est pas un programme, on va dire, qu'il faut renverser le capital, qu'il faut une propriété collective des moyens de production, qu'il faut une démocratie populaire et des soviets partout, etc., des conseils. Non, pas du tout. Donc, ce sont des mesures progressistes qui sont combattues bec et ongles par un patronat qui essaie de s'organiser en reprenant confiance après avoir eu très peur. Et ce patronat qui finance très abondamment cette presse. Donc, ça fait réfléchir fondamentalement à ce que dira, par exemple, plus tard le Conseil national de la résistance dans son programme, c'est-à-dire il faut mettre les médias à l'abri des puissances de l'argent. Et ça nous fait beaucoup réfléchir aujourd'hui à quelles sont les mesures. Et il en existe pour mettre au pas justement cette dimension, cette machine de guerre très antidémocratique quand même, quand la concentration de la presse est si forte et si virulente et qu'elle va à l'encontre non seulement justement des libertés, mais aussi du rapport à la vérité. Et ça, on le sent aussi beaucoup dans la période. Et puis je dirais peut-être pour une dernière interrogation sur aujourd'hui, que ça pose un enjeu fondamental sur l'unité de la gauche, l'unité des gauches. Comme j'ai dit, malgré des hostilités réciproques qui étaient fortes, ces gauches ont réussi à s'unir de manière déterminée grâce à une très forte mobilisation sociale. En même temps, ça pose la question du pourtour, des contours, on va dire, du périmètre de cette alliance. Parce que je crois fondamentalement qu'une des fragilités intrinsèque du Front populaire, c'est que cette alliance, elle est allée assez loin, y compris avec ce qui était en fait une droite de gauche, avec une partie, notamment de cette organisation, le Parti radical, qui finalement a basculé vers la droite et qui a fini par, en grande partie, voter les pleins pouvoirs à Pétain, par exemple. Donc, en fait, il faut s'interroger sur le fait qu'une alliance ne peut être durable et mener une politique volontariste que si elle est véritablement de gauche et pas une droite complexée qui mènerait une politique de droite tout en continuant de se revendiquer de la gauche. Je ne sais pas si vous captez l'allusion, mais en tout cas, chacun et chacune pourra éventuellement se faire sa propre idée. Et peut-être le dernier enjeu, c'est celui des luttes sociales. Parce que c'est vrai que le choix qu'ont fait les gouvernements de Front Populaire, c'est d'essayer de mettre un terme à ces luttes sociales, de rétablir l'ordre. Et c'est peut-être un paradoxe qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que le mot ordre a été un mot d'ordre du Front Populaire. C'est-à-dire, il faut la force tranquille. C'est pas une invention de François Mitterrand, c'est le premier discours de Léon Blum quand il arrive au pouvoir. Voilà, tranquillisons-nous et laissons le gouvernement gouverner. Donc ça pose une question sur le rapport de force. Est-ce qu'un rapport de force à gauche peut se passer de mouvement social ? Pour ma part, je ne le crois pas. Et je crois beaucoup en la force du collectif, en la force des luttes, et de luttes qui sont auto-organisées, comme on l'a vu aussi beaucoup pendant cette période.
Eh bien, écoutez, on dit toujours que le but de l'histoire, c'est d'aider le présent. Et effectivement, pour ça, il faut lire le livre de Ludivine Bantini. Un grand merci pour votre livre, « La bourse ou la vie ».